Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Sur le MAG de l'environnement, Thierry Rutkowski de l'ALPE aujourd'hui. Que vos pas vous entraînent dans les collines de la Piège, sur la Montagne Noire, en Corbière, mais aussi sur les marais littoraux, vous aurez certainement été interpellé par le vol souvent rasant mais aussi élégant de certains rapaces. Je veux parler des busards. Parmi ces busards, il est une espèce particulièrement menacée, le busard cendré. Pour nous parler de ces oiseaux, j'ai convié à ce micro Florian Esco. Bonjour, bonjour, bonjour. Florian. Vous êtes chargé d'études à la LPO Aude et il est une espèce parmi ces nombreuses présentes dans l'Aude qui attise particulièrement votre intérêt. Je vais répéter, il s'agit du busard cendré. Alors, peut-être dans un premier temps, il me semble utile pour nos auditeurs que vous nous parliez des busards au sens large. Parlez-nous des diverses espèces, des habitats fréquentés, mais aussi de leur cycle annuel, avant d'aborder le cas tout particulier du busard cendré.
Alors, bonjour à tous, merci Thierry. Alors oui, effectivement, donc je suis un grand passionné de nature, mais tout particulièrement de ces rapaces. Hein. Donc les busards, ce sont des rapaces de taille, on va dire, moyenne, qui ressemble grosso modo à une buse variable qu'on doit connaître. Il y a trois espèces en France, donc le busard cendré, comme vous l'avez dit, le busard Saint-Martin et le busard des roseaux. Donc ce sont trois espèces qui vont nicher dans des endroits assez différents. Je vais passer le busard cendré, ce qu'on va détailler après. Par exemple, le busard Saint-Martin, c'est un rapace qui va nicher plutôt en forêt, dans les landes, dans les milieux plutôt frais.
Comment est-ce qu'on les distingue, ces deux oiseaux-là, le Saint-Martin et le cendré?
Alors, c'est des oiseaux qui ne sont pas vraiment faciles à distinguer, en particulier pour les femelles. Donc, les mâles de busard cendré Saint-Martin sont plutôt gris, avec le bout des ailes noires. Le busard cendré par rapport au busard Saint-Martin a plutôt bien tacheté de noir et de marron, avec une tête bien grise, alors que le busard Saint-Martin est un busard qui a vraiment une distinction noir-blanc sur le corps. Les femelles sont vraiment difficiles à distinguer, elles sont pratiquement toutes marron, avec une tache blanche sur le croupion, qui est plus importante chez le busard Saint-Martin que chez le busard cendré.
Voilà, alors ça c'est tout un travail. Conseiller à nos auditeurs qui veulent s'y mettre, hein, de rejoindre parfois les rangs de la LPO quand on fait les sorties dans le département, dans ces régions, et puis peut-être acheter parfois des bons bouquins, le guide ornitho chez de la Chouenissé, et la référence du genre. Et alors, un autre,
le busard des roseaux.
Busard des roseaux.
Donc, c'est le plus rare de France, hein. Il y a très peu de couples nicheurs par rapport aux deux autres espèces. Et c'est le busard le plus grand, hein. C'est presque en termes de poids, c'est le double d'un busard cendré.
En envergure,
le busard cendré, le busard Saint-Martin avoisine les 1m10, 1m15 d'envergure. Le busard des roseaux, lui, il est plutôt vers 1m30, 1m35.
D'accord. Donc le busard des roseaux, c'est celui qu'on peut observer quand on va sur la région de Gruissan, sur les marais littoraux.
Tout à fait. C'est un busard qui niche dans les grandes roselières, dans des marais du Narbonnais, des roselières du littoral français également. Mais par contre, lui, il peut nicher aussi plus dans les terres, dans les roselières ou dans les milieux plutôt en friche, dans la vallée du Rhône et dans le nord de la France.
D'accord. Alors, le busard cendré, venons un petit peu à cet oiseau-là. Il s'agit d'une espèce sédentaire, une espèce migratrice?
Alors, le busard cendré, c'est un oiseau migrateur strict, c'est-à-dire que tous les individus de sa population, hein, donc tous les individus qui vont nicher en Europe et en Russie aussi, vont migrer. Donc, ils vont migrer où? Eh bien, ils vont migrer au sud du Sahara, principalement. Ils vont passer en fait l'hiver au Sénégal, dans la région du Sénégal, où on peut observer, si on y va au mois de janvier, février, des milliers d'individus qui se regroupent ensemble et ils chassent les criquets.
C'est dans ces mêmes régions, je crois, aussi qu'un autre oiseau qui est très très présent aussi, en fait de plus en plus présent dans le département de l'Aude, dans la zone méditerranéenne, le faucon cresserellette.
Tout à fait.
C'est dans ces coins-là.
Exactement,
aussi.
Et on peut les voir même ensemble, voler ensemble le soir. Donc on appelle ça des dortoirs, il y a des dortoirs de milliers d'individus.
Fabuleux, j'ai vu des photos, mais j'irai bien voir un jour.
Moi aussi.
Donc, migration, ils partent quand? Ils reviennent quand?
Alors, les busards cendrés vont partir d'ici un mois. Les premiers partent à la mi-août. Ils mettent en général 3-4 semaines pour redescendre jusqu'au Sénégal. et vont revenir en France à partir du mois d'avril. Les premiers oiseaux observés sont courant avril, quoi, la première quinzaine d'avril pour les premiers.
Alors qu'est-ce qui se passe?
Alors là, dès qu'ils arrivent, les mâles, surtout les mâles, se positionnent sur des territoires. Donc souvent des territoires où ils ont niché l'année passée, ou des territoires où la reproduction est réussie. Si la reproduction échoue, ils ne reviennent généralement pas sur le lieu.
D'accord. Cette espèce, on la rencontre dans d'autres régions, de France?
Alors oui, le busard cendré, il a une répartition assez large au niveau de la France. Par contre, il peut se concentrer des centaines de couples dans certaines régions comme l'Auvergne, la Bourgogne, le Grand Est et la Charente-Maritime.
Alors peut-être très rapidement, les menaces. Quelles sont les menaces?
C'est un busard qui est vraiment un déclin de 3% par an. Donc la plus grande menace, c'est qu'il niche en fait dans les champs de céréales. Ou s'il n'avait pas l'action de bénévoles sur tout le territoire, des milliers de jeunes busards seraient morts sous l'action de la moissonneuse.
D'accord. Alors, où se localisent dans le département de l'Aude ces zones dans lesquelles, finalement, l'oiseau est menacé?
Alors, sur le territoire de l'Aude, l'oiseau est menacé à peu près partout pour diverses raisons. Il est menacé donc sur la Piège et dans le Lauragais parce qu'il niche dans les champs de céréales. Sur le littoral, parce que les milieux se referment, parce qu'il est souvent prédaté par les sangliers, malheureusement.
Ah oui. Oui, donc espèce qui prolifère, malheureusement.
Tout à fait. Et il est aussi menacé par les X projets de panneaux photovoltaïques qui émergent en Montagne Noire.
D'accord. Montagne Noire, la Piège. On va revenir dans la région de la Piège à travers les programmes Natura 2000 sur la zone de protection spéciale Natura 2000 des collines de la Piège.
Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Sur le MAC de l'environnement avec Thierry de l'ALPO, qui invite aujourd'hui un chargé d'études de l'ALPO Aude. J'ai nommé Florian Esco. Florian, vous nous avez parlé des busards et du busard cendré. Cette année, comme l'an dernier déjà, il y a eu des missions sur la zone Natura 2000, zone de protection spéciale des collines de la Piège, pour travailler sur une action qui a été inscrite dans le marbre du document d'objectif, c'est-à-dire travailler sur la localisation et la protection des colonies de busards cendrés. Alors parlez-nous de votre travail.
Alors oui, tout à fait Thierry. Pour refaire le contexte, en fait, le busard cendré n'était pas connu comme nicheur dans les champs de céréales avant l'an dernier dans le département de l'Aude. Et on a découvert ça donc l'an passé en localisant deux nids dans les champs de blé. Et donc via Natura 2000, on a pu cette année se concentrer exclusivement sur le busard cendré pour protéger ces nichés. On ne savait pas vraiment les effectifs nicheurs dans les champs de céréales qu'il y avait.
Quand vous dites via Natura 2000, ça veut dire qu'il y a des moyens financiers dédiés pour ces actions.
C'est des fonds européens qui financent cela.
D'accord. Alors, votre job ?
Alors, le job, en fait, c'est tout simple. En parler comme ça a l'air simple. C'est de localiser les nids de busards dans les champs de céréales et d'aller voir les agriculteurs, propriétaires ou exploitants de ces parcelles et de voir avec eux si déjà ils sont d'accord pour protéger le nid et pour les sensibiliser à cette cause, quoi.
Alors, comment ça se passe ? Vous êtes bien reçu, mal reçu ?
Eh bien, plutôt bien reçu. Hein. Les agriculteurs sur ce territoire connaissaient le busard même avant que je naisse. Hein. Ils protégeaient même pour certains. Donc plutôt bien reçu, on va dire.
Alors, et sur le terrain, comment est-ce que vous procédez pour repérer ces oiseaux ?
Alors, c'est très chronophage. Donc, moi, j'ai commencé à y aller dès l'arrivée des adultes mi-avril, début mai. En fait, les busards cendrés vont parader sur leur site de nidification, pas forcément sur la parcelle où ils vont nicher, mais ça va être aux alentours, quoi, le nid. Le busard cendré est assez connu pour ses magnifiques parades aériennes, hein, c'est spectaculaire.
Comment ça se passe ?
Donc, en fait, le mâle...
Faites rêver nos auditeurs, là.
Le mâle va très haut dans le ciel et descend en faisant des vrilles assez spectaculaires, peut faire des loopings, enfin, c'est juste incroyable pour séduire les femelles. C'est des beaux séducteurs. Et du coup, dès qu'on voit par exemple un couple ou par exemple deux femelles, un mâle, qui sont en train de parader sur une certaine zone, on sait que le nid ne sera pas loin.
D'accord, on peut augurer que voilà, finalement il va y avoir une reproduction. Quoi.
Tout à fait, ça va nous indiquer donc le futur site de nidification. Donc on se situe début mai, et on y retourne donc plus tard quand il y a eu la ponte. Donc c'était vers mi-mai. Et là, par contre, c'est un peu plus chronophage. C'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs heures que le mâle, en fait, ravitaille la femelle. Donc il lui apporte une proie.
Alors, ravitaillement, comment ça se passe ? C'est magnifique.
Ça aussi, c'est magnifique, tout à fait. En fait, le mâle va apporter une proie à la femelle. Donc en général, c'est un campagnol. Les busards mangent beaucoup de micro-mammifères. Donc il lui apporte une proie. Ils vont émettre des cris. Ils vont se reconnaître avec ces cris-là. La femelle va décoller. Et là, ils vont monter un peu dans le ciel. Le mâle va descendre sur la femelle et la femelle va se retourner d'un coup. Donc, elle va être complètement à l'envers. Hein. Elle va être dos au sol et va prendre la proie dans les serres du mâle. Et puis, va redescendre, va aller manger sa proie soit sur un piquet, soit au sol. Et du coup, là, elle va retourner au nid. Donc là, il ne faut absolument pas lâcher la femelle avec nos jumelles ou nos longues-vues. Et là, on va attendre qu'elle retourne au nid pour avoir une idée précise de l'emplacement du nid.
Alors, il y a une ponte et il y a une incubation. Ça dure combien de temps ?
Tout à fait. Alors, l'incubation dure environ 25-30 jours.
25-30 jours.
Chez cette espèce.
Et ensuite, il va falloir nourrir ça tous les jours.
Exactement. Pendant au moins... Alors, les jeunes busards s'envolent à partir de... Quand ils ont un bon mois. Hein, et ils vont être encore dépendants des parents pendant au moins 2-3 semaines.
Ça voudrait dire que maintenant, on enregistre l'émission ici à la mi-juillet. Ces oiseaux sont volants.
Tout à fait. Donc moi, j'y suis passé donc de ce matin, là, faire le tour des nids protégés, et la plupart sont déjà volants. Ouais. Et ça, c'est assez, c'est une bonne satisfaction quand on a passé beaucoup de temps là-dessus, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des échecs ?
Alors, j'ai eu des échecs en début de saison parce que...
Vous entendez l'ornithologue, il dit « j'ai eu des échecs ». Moi qui étais forestier, je disais « dans ma forêt ». Le terrible, c'est la passion,
ça. C'est vrai qu'on s'approprie les choses. Ouais. Donc, on a eu des échecs parce que il y avait, pour le premier échec, je vais aller rapidement, un busard avait niché dans une prairie de fauche et avec les fortes pluies qu'il y a eu, le champ avait versé, donc la ponte a abandonné. Quoi.
La ponte a été abandonnée.
Et après, j'ai eu deux prédations, probablement par les sangliers, prédation même en champ de céréales.
Prédation par les sangliers, oui, ça c'est vraiment...
C'est catastrophique.
C'est catastrophique. Mmh. Ouais. Alors oui, c'est des espèces quand même qui nichent au sol. Allez, une petite musique pour respirer.
last line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine.
Bon retour sur le Mac de l'environnement, donc Thierry au micro avec Florian Esco. Nous parlons du busard cendré. Donc vous avez travaillé sur les collines de la Piège, sur le site Natura 2000, vous avez travaillé avec des paysans. Et comment s'opère la mise en sécurité sur le terrain de ces nichés de busard cendré ?
Alors Thierry, comme je le disais, dès lors qu'on a récupéré, qu'on a trouvé l'emplacement exact du nid, je vais prévenir l'agriculteur. Donc j'essaye de trouver à qui appartient le champ de céréales.
Ah oui, il y a un travail d'identification foncière.
Ouais. Bien sûr. En général, je vais voir la première ferme et je trouve assez facilement. Et dès que j'ai son autorisation pour accéder à sa parcelle, parce que je rentre jamais dans les parcelles sans demander avant.
C'est du bon sens, bien sûr.
Tout à fait, ouais. Et du coup, je vais mettre 4 piquets autour du nid.
À quelle distance ?
Pour marquer l'emplacement. Je mets environ 3-4 mètres autour du nid. Je mets 4 piquets qui me délimitent bien. Ça sera quand il passera la moissonneuse, il va dévier le nid avec la moissonneuse en faisant le tour de ces 4 piquets.
D'accord. Et puis, le jour de la moisson, évidemment, il y a une action d'évitement de la moissonneuse.
Voilà. Et par contre, on met une protection en plus. Il faut attendre que les poussins aient éclos. Je ne protège jamais sur œuf. Donc, en fait, on met une sorte de cage, qu'on appelle cage traîneau, hein, dans le jargon busardeux.
D'accord.
C'est une cage de 1 mètre par 1 mètre de côté, qui est ouverte évidemment sur le haut, et dans lequel on va mettre les poussins dedans. Donc on va mettre un tapis de foin ou de paille au sol. La cage est gréagée au sol pour pas que les prédateurs puissent passer en dessous. Et on va mettre les poussins là-dedans, et on va attendre que la femelle retourne au nid.
Ah, ça aussi l'intérêt de finalement de protéger la nichée des prédateurs.
Oui, parce qu'en fait, quand il reste un carré non moissonné ou un carré non fauché en plein milieu d'un champ, ça attire inévitablement tous les prédateurs, en particulier le renard.
D'accord. Comment réagissent les agriculteurs quand ils, grâce à ce travail de collaboration, vous arrivez finalement à voir s'envoler ces oiseaux?
Les agriculteurs sont assez fiers de cette action-là sur ce territoire. Certains les protégeaient même avant cette action. Et ils ont pris conscience que cette espèce était vraiment utile pour eux, parce que le busard cendré mange en particulier, même exclusivement, que des micro-mammifères. Donc oui. Ça va être les campagnols, principalement. Et ces campagnols-là, ils consomment beaucoup de grains par an. Donc ça va être un bénéfique pour eux de protéger cette espèce.
Rappel très important, c'est que tous ces animaux, que ce soit des rapaces, que ce soit aussi le renard, tout simplement, sont des prédateurs d'une très, très grande utilité. Ce sont des auxiliaires, ce sont vraiment des associés, finalement, des agriculteurs pour essayer de limiter les proliférations, quelles qu'elles soient. Comment mieux s'organiser pour sauvegarder ces oiseaux?
Alors, mieux s'organiser, je pourrais pas. Il faut du monde, quoi. Et là, cette année, j'ai quand même été un peu tout seul pour faire ça. Et on a besoin de bénévoles qui soient sur le terrain et qui s'investissent pour ce genre d'espèces. Il n'y a pas que le busard cendré qui a besoin d'être protégé, en particulier dans le département. Mais il faut vraiment des bénévoles qui s'investissent sur un territoire, parce que le territoire de la Piège est assez immense. Et il faut du monde qu'on a besoin.
Donc, vous faites un appel à bénévoles.
Tout à fait, exactement. Un appel à bénévoles. Exactement.
Donc voilà, c'est pas difficile. aude@lpo.fr, vous voulez vous engager en tant que bénévole pour faire de la surveillance, que ce soit pour le busard cendré ou sur d'autres espèces, n'hésitez pas à contacter la LPO. On a besoin de bénévoles pour être plus efficace dans la protection de toutes ces espèces. Écoutez, je pense qu'on a, on a vu pas mal de choses. Quand même, avant de se quitter, les busards cendrés, ils nichent aussi en garrigue.
Oui, en effet. Il y a quelques colonies, surtout dans les corbières et sur le massif de la Clappe, où ils nichent dans le chêne Kermès. Donc c'est le petit arbre qu'on voit en garrigue qui est très bas. Ces colonies-là sont très lourd déclin. J'insiste là-dessus par rapport à diverses menaces. La fermeture des milieux, je l'ai cité tout à l'heure.
Alors, fermeture des milieux, par quoi? Par la dynamique naturelle, c'est-à-dire la déprise agricole?
La déprise agricole, la dynamique naturelle, le pin qui prolifère.
Moi, j'aurais tendance à rajouter aussi les problématiques qui sont liées à tous ces enjeux de développement des énergies renouvelables et des projets photovoltaïques. On voit sur les tombants de la Montagne Noire une prolifération de projets qui sont dans des zones où finalement, qui sont les derniers bastions de certaines colonies de
busards cendrés. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans Montagne Noire, déjà, il y a des grandes populations, il y a plusieurs dizaines de couples de busards cendrés et de busards Saint-Martin qui nichent dans les landes, et ces landes sont assez vouées pour des projets de centrales photovoltaïques.
Voilà, et puis peut-être pour terminer, à l'échelle nationale, finalement, il existe des populations et des milieux qui sont des populations sources et d'autres qui sont des populations puits.
Oui.
Les populations sources sont un peu ces garrigues,
ces
landes.
C'est les plus importantes.
Et on vient de l'évoquer, le problème, c'est les problèmes des populations en milieu agricole. Donc il est nécessaire de faire de la surveillance, de travailler en collaboration.
Je voulais juste rajouter, par exemple, si les busards cendrés n'étaient pas protégés chaque année dans tous les territoires français, ils disparaîtraient de la France dans les 20 ans.
Voilà, c'est pas rassurant.
Non,
voilà.
Pas du tout.
Florian Escaut, merci.
Merci
pour cette belle démonstration de travail dans le contexte de vos missions à la LPO. Et puis, on ne manquera pas de vous inviter pour parler d'autres espèces, parce que vous avez d'autres compétences sur d'autres espèces et dans d'autres milieux.
Oui, avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Au revoir, chers amis du MAC de l'Environnement.
C'était le MAC de l'Environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbouno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.